Passer au dossier de la semaine.
Un dossier consacré
à l'interview de David Marsac et Valérie Taforo ce soir.
C'est parti. Valérie, bonsoir.
Bonsoir.
Donc tu es libraire à l'Herbe entre les dalles, qui vient de rouvrir donc rue de la Barrierie. Mais c'était une librairie donc qui a connu première ouverture en 2005 rue des Pont-Neufs, si je dis pas de bêtises. Oui. Est-ce que du coup tu peux nous retracer brièvement l'histoire de la librairie, ce qui s'est passé entre ces deux dates et pourquoi ça a rouvert maintenant en fait?
En 2005, j'ai ouvert dans un tout petit endroit avec un bail précaire, c'est-à-dire que les baux commerciaux, c'est assez compliqué, notamment en France. Soit on a un bail commercial et là, on paie un droit d'entrée dans un commerce, souvent des sommes astronomiques. Soit on a un bail précaire, mais comme son nom l'indique, il est précaire. Donc je savais pertinemment que je devrais m'en aller à un moment. Mais ce propriétaire ayant deux lieux côte à côte, un bail précaire, c'est 2 ans normalement. Il m'a fait naviguer entre les deux lieux, ce qui fait que ça a duré 3 ans. Et au bout des 3 ans, je le dis parce que j'ai envie de raconter cette histoire qui me scandalise définitivement. Au bout des 3 ans, il m'a dit, ça se passe très bien, cette librairie marche très bien, je te fais un bail commercial. Parce qu'il me tutoyait, on était copains, c'est bien entendu. Donc, je te fais un bail commercial, mais je veux un droit au bail de 70 000 euros. Pour 30 mètres carrés. Donc, j'ai même pas. Je lui ai dit d'aller se faire foutre. Enfin, j'ai pas dit comme ça, mais le cœur y était vraiment. Et voilà. Et j'ai même pas pensé à demander à la banque. Enfin, pour une librairie, je tiens les livres, ça rapporte pas d'argent. Voilà, ça en rapporte, mais pas à ce point-là pour acheter un droit au bail comme ça. Et au bout de 3 ans d'une entreprise, on réemprunte pas 70 000 euros. Donc, j'ai déménagé 100 mètres plus loin. Dans un local qui ne m'a coûté entre guillemets que 58 000 euros. Bon, là, c'était 70 mètres carrés. Du coup, ça paraissait raisonnable par rapport à l'autre. Et puis, j'étais à la rue, surtout avec les cartons, les livres, la librairie marchait et tout ça. Donc, je me disais, c'est à 100 mètres de l'autre local, donc j'y vais. Sauf que cet autre local donc faisait 70 mètres carrés, donc j'ai doublé le stock, quasiment. C'était sur une avenue où les gens ne passent pas à pied. Ça a été le début de la crise, enfin. Leur crise là. Et puis voilà, et le fait d'avoir un autre emprunt, et ces 4 choses là ont fait que petit à petit ça a été la chute, quoi. Voilà, et puis d'être seul, et puis j'ai embauché quelqu'un à un moment, mais de pas avoir les moyens de développer des choses avec cette personne a fait que au bout d'un moment, j'ai dit que j'arrêtais parce que je ne payais que la banque, en fait. Voilà. Alors à l'époque, les gens, des clients, des amis, ils voulaient me donner de l'argent et j'ai pas voulu parce qu'on mettait un pansement sur une patte de bois, quoi, en gros. Donc j'ai fermé, puis j'avais un découragement, qui fait que j'ai arrêté. Et 3 mois après, les gens sont venus avec un enthousiasme et une détermination et un désir en disant on recommence la librairie. Voilà, donc cette librairie, la première, a duré 7 ans quand même. Et en juillet 2012, j'ai fermé. Et en octobre, on a commencé une réunion à la fonderie. Je travaillais là-bas à l'époque, je faisais la cuisine. Et on a, autour de ce lieu, on a commencé à dire on va refaire la librairie. Donc on a fait une association. On a fait un appel à dons, puisque les gens voulaient donner de l'argent, on a fait un appel à dons. Et là, ça a été inouï. Enfin, moi, j'en reviens toujours pas. On a eu 18 000 euros en 2 mois.
Ah oui?
Oui, c'est énorme.
Ouais, c'est pas mal.
Le premier projet était de s'installer dans la vitrine de la fonderie, dans l'espace vitré de la fonderie. Mais le maire a installé un CCAS dans cet endroit, donc on voulait le partager en deux en se disant pourquoi pas, ça peut marcher, partager les lieux, c'est excentré, tout est dans le centre-ville, pourquoi pas. Et il a jamais voulu. Donc très vite, on a arrêté cette histoire et on a cherché un autre local. Et là, donc, on a trouvé un local rue de la Barrierie, sans droit au bail, c'est-à-dire que c'est un propriétaire qui nous a fait un bail commercial, mais sans ce fameux droit d'entrée astronomique, et on paie que le loyer. Voilà.
D'accord.
Voilà.
Ok. Pour en venir plus concrètement au fonctionnement de la librairie, comment se fait la sélection des ouvrages qui sont vendus ?
Elle se fait par moi. Elle se fait les éditeurs soit sont complètement seuls et se chargent de distribuer, c'est-à-dire physiquement d'amener leurs livres ou de les faire parvenir en tout cas chez un libraire eux-mêmes, soit ils ont un distributeur qui regroupe plusieurs éditeurs et qui se charge de ce travail, qui leur fait payer d'ailleurs, mais David Marsac vous l'expliquera. Et ils ont aussi un diffuseur, c'est-à-dire quelqu'un qui vient me parler des livres à paraître chez tel éditeur. Donc moi, ma sélection, elle est plutôt comme ça, d'un premier abord, sur l'éditeur, c'est-à-dire sur qu'est-ce qui publie cet éditeur, pourquoi, comment, avec qui, quelle idée il y a derrière, idée ou sur l'écriture ou sur une pensée, ou voilà. Ma première sélection, elle est plutôt comme ça. Mais ça m'empêche pas de regarder absolument tout, je veux dire, y compris Hachette, y compris Gallimard, y compris des gros éditeurs. Mais et à l'intérieur de ça, par auteur et puis par thème et puis par je choisis les livres un par un, voilà.
D'accord. Du coup, pour aller dans le choix aussi, parce qu'il y a quand même un choix relativement, je trouve, politique dans le choix des livres. Est-ce que c'était présent d'entrée de jeu, ou est-ce que c'est juste par rapport à tes goûts, où tu t'es dit tiens, je vais prendre ça, ou est-ce que c'est non, ça va être comme ça parce que j'ai envie de dire telle chose en vendant mes livres?
Ah bah oui, parce que quand même, quand on vend des livres, on vend des idées. On peut pas dire le contraire. Donc c'est vraiment oui, ça a toujours été comme ça. Et c'est un vrai choix. Ouais.
Du coup, j'avais une question aussi, savoir. T'as pas mal de types de livres différents, c'est-à-dire c'est assez éclectique, plein de formats. Mmh. Et puis aussi, t'as un rayon poésie assez développé, assez pointu, je crois. Moi, j'y connais pas grand-chose, du coup, c'est très pointu pour moi. Mmh. Mais il y a un vrai choix, enfin, sur certains fonds, c'est-à-dire que tu choisis vraiment de mettre en avant, même si c'est pas forcément le truc le plus vendeur, on va dire. Mmh. C'est-à-dire qu'il y a aussi, comme je rejoins monsieur ça, il y a au niveau de la portée politique, c'est-à-dire porter une autre culture, enfin, une culture, enfin, qui est pas exposée ou qui est pas suffisamment exposée à ton goût. Il y a un choix là-dessus.
Oui, mais quand j'ai ouvert la première Herbe entre les dalles, j'en parlais à des gens, à un ancien libraire, tout ça, ils me disaient, mais t'es cinglé, la poésie ne se vend pas. Bon, alors je disais, bah oui, mais enfin, en même temps, il y en a pas au Mans. Donc, de toute façon, il n'y a pas de risque, quoi. Voilà. Alors moi c'est vraiment ça m'intéresse beaucoup, j'en lis beaucoup, il y a plein de choses voilà sur lesquelles j'adhère plus ou moins, où je comprends, où je, enfin c'est pas une question de comprendre la poésie, mais de ressentir, mais il y a des gens qui achètent de la poésie quoi, et puis de toutes sortes de gens, des jeunes, des gens plus vieux, des gens je me souviens il y a un moment il y avait la prison qui venait acheter des livres et bon maintenant je crois qu'ils ont plus de budget pour ça. Ça s'est réglé, mais et les demandes étaient beaucoup là-dessus, c'est-à-dire les éducateurs qui venaient choisir les livres me disaient on a besoin de livres de poésie, ils demandent des livres de poésie, notamment pour les recopier, pour envoyer à leurs amoureuses. Ouais, moi, ça me faisait pleurer. Enfin voilà, rien que pour ça, c'est formidable, quoi.
Ouais. Et du coup.
Et du coup, un peu dans le même esprit, est-ce qu'il y a une idée de réseau justement par rapport à ce contenu entre d'une librairie à l'autre? Parce que c'est vrai qu'au Mans, il y en a qu'une, mais dans d'autres villes, il y a des librairies un peu libertaires. Je sais pas si tu te reconnais dans le thème, mais un peu comme ça. Je pense notamment à la librairie rue Amelot à Paris. Oui. Enfin, est-ce qu'il y a un réseau qui existe ou des
un réseau concret qui ferait des choses ensemble, tu veux dire?
Non, plus dans le fait de être seul sur la ville, mais pas l'être d'une ville à l'autre. Et puis, je sais pas, justement, par rapport aux éditions, se conseiller des livres, des choses comme ça.
Oui. Bah, y a un réseau d'affinités et de façon de travailler proche avec plusieurs librairies, sauf que, bon, là, ça va peut-être, je vais pouvoir creuser cette question-là, mais pour l'instant, enfin, on est chacun, les libraires, c'est un peu général, dans son coin, complètement débordé. Après, on n'est pas sûr de la concurrence, enfin, parce qu'on a chacun nos personnalités, parce que finalement, moi, quand je dis je choisis les livres un par un, ils font tous quasiment la même chose. C'est-à-dire que les livres, on peut les acheter de deux façons. C'est-à-dire en disant j'accepte des colis qu'ils appellent des offices, et c'est des choses, décidées par l'éditeur, le distributeur, ça paraît. On envoie au libraire quoi qu'il paraisse en plus ou moins grande quantité. Les librairies dont on parle là, elles font pas ça. Donc chacun sa personnalité. C'est-à-dire que moi, je vais prendre peut-être un exemplaire d'un titre, quand quelqu'un à Tours en prendra cinq, et inversement. Mais on est quand même dans quelque chose d'assez proche. Et c'est vrai que ces réseaux-là, moi, j'ai envie de les, voilà, de qu'on se parle, qu'on se voit. Bon, il y a eu un moment, ça continue d'ailleurs. Je suis allée à la première rencontre, l'appel des 451 à Montreuil, autour du lieu d'Armand Gatti. La parole errante, et puis la librairie Michel Firk. Bon, voilà, on a échangé à ce moment-là, mais faut sur le temps, il faut. Mais bien sûr, c'est ça qu'il faut faire, il faut.
Ben oui, parce que je pense qu'il y a ça souvent en musique, on va d'un coin à l'autre, voilà. Tu connais machin qui est à l'autre bout de la France, du coup je pense qu'en librairie...
Et même pour faire venir des auteurs étrangers par exemple, tout d'un coup s'il y a un auteur étranger qui vient à Tours, on pourrait le cofinancer pour qu'il vienne aussi au Mans, enfin voilà, il y a vraiment... Voilà.
Et lui éviter les day-off, quoi, un peu comme en musique. Quoi.
Voilà.
Voilà, il faut vraiment qu'on fasse ça. Mais sauf que bon, là, on est tous débordés.
Oui, après.
Chacun dans son coin, on le fait pas. Mais ça, moi, je veux vraiment, là, avec Gabriel, qui travaille avec moi, qu'on essaie de faire ça.
Et du coup, ouais, moi j'avais une autre question, parce que je sais que on peut déposer des fanzines chez toi, etc. Mm. Je sais qu'il y avait le magazine Chéri Bibi, qui était en dépôt chez toi à une époque. Je sais pas s'il y a encore.
Non, je les ai pas recontactés.
Ouais, tu les as pas recontactés, dommage.
Ça fait que 3 semaines.
Oui. Et du coup, ce rapport un peu au fanzina aussi, c'est aussi à accueillir autre chose que simplement du livre, c'est aussi un peu du magazine. C'est-à-dire que les formats, il y a aussi des revues, il y a des choses comme ça, donc c'est aussi une volonté. Parce que les revues littéraires comme ça, la plupart du temps qu'on ignore parce qu'on ne sait même pas qu'elles existent. Il y a aussi cette dimension-là, j'imagine.
Oui, et puis j'ai envie que les gens, alors ça va pouvoir aussi se faire par les animations, mais que des gens qui rentrent. Faut pas rêver quand même. Les librairies, on a beau dire tout ce qu'on veut, il y a un côté un peu, surtout les petites librairies comme ça, un côté un peu impressionnant. Il y a eu des libraires tellement caractériels, tellement caractériels. Moi, je me sens caractériel, mais tellement non, mais un peu la vie, c'est une merde, mais tellement pointu, enfin qui se voulait, je sais pas quoi, pointu. Moi, j'ai envie que les gens, je le dis un peu comme ça, c'est un peu familier, mais que les gens rentrent là-dedans comme dans un moulin, je sais pas quoi, les jeunes notamment. Oui. Que ça soit simple de rentrer. Qu'ils rentrent pour acheter pour un fanzine, d'ailleurs, sur lequel je prends rien, parce que je veux aussi les. Voilà, je vais pas me mettre à vendre, je sais pas quoi, je vais pas faire de l'argent sur un truc qui, de toute façon, c'est aussi pour ça, c'est aussi pour soutenir des jeunes qui font des choses, et aussi pour que d'autres jeunes rentrent et que ça soit pas sacré, quoi. Voilà, que ça soit pas sacré de rentrer dans un endroit comme ça. Pour moi, c'est très important. Et d'être dans la rue de la Barillerie me fait très plaisir, parce que vraiment, avenue Rostov-sur-le-Don, j'ai eu le temps de les voir passer, les gens en bus et en voiture, et de crever d'ennui. Dans la rue de la Barillerie, c'est génial, parce qu'il y a des bars, il y a des jeunes, il y a Bulle à côté, et ça, c'est vivant, quoi. Voilà. Ouais. Et ça me donne beaucoup de courage. Et cet après-midi, je voudrais vous le raconter parce que ça me... En vitrine, j'ai mis un livre, un tout petit livre qui s'appelle « Avoir un bon copain ». Et je l'ai mis pour le titre. « Avoir un bon copain », c'est un truc, je sais pas ça. Et il y a un petit gosse avec sa mère, un petit gosse de 11 ans qui rentre et qui me dit « Je voudrais le livre là ». Et je lui dis « Mais tu sais, c'est un livre de photos ». Et il était déçu, il me dit « Je croyais que c'était une histoire avec un bon copain et tout ça ». Voilà, et ça pour moi, c'est une journée réussie. Voilà, par exemple.
D'accord.
Voilà.
Ok, je propose qu'on fasse une petite pause musicale et puis on attaquera la deuxième partie de l'interview. Donc on va écouter Volt Voice avec le morceau Down in a Country.
Vous êtes bien dans Panopticon, épisode 33, saison 5, sur le 107.3 FM et radioalpa.com. Et l'interview de David Marsac, des Doigts, dont la prose, et de Valérie Tafoureau, de L'Herbe entre les Dalles, se poursuit.
Oui, alors pour
Poursuivre.
Enchaîner.
Voilà, en c'est interview. Donc les nouveaux locaux que tu viens d'intégrer il y a quelques semaines permettent maintenant l'organisation d'événements tels que des lectures ou même des concerts comme on a pu voir. Alors d'où venait cette envie d'élargir la mission de la librairie et qu'est-ce que ça va apporter finalement par rapport aux anciens lieux?
Mais ça apporte ça déjà que des gens qui ne seraient pas venus dans la librairie puissent y rentrer par un autre biais. Ça apporte c'est très vivant, c'est très gai, ça permet de faire connaître. Bon là, on a fait une programmation, c'est l'idée de Gabriel et c'est une très bonne idée, sur 15 jours pour fêter l'ouverture des manifestations très rapprochées. Voilà, là l'idée c'est d'inventer des choses, d'expérimenter des choses, genre faire venir un éditeur par exemple pour parler de son catalogue. Avec un auteur, mais pas, de pas se cantonner à un auteur derrière une table qui signe un livre, qui de toute façon le livre marche et le bon. Oui. Pourquoi pas faire ça une fois, parce qu'il y a des choses qui marchent aussi qui sont bien, hein, faut pas non plus. Mais c'est essayer de créer des liens, de faire rentrer des gens, de défendre des choses, voilà. Je pense que maintenant plus aucune librairie, si j'en connais une, mais se passe de rencontres comme ça dans la librairie, quoi.
D'accord. Alors du coup, est-ce que les événements, ils vont rester à un rythme aussi soutenu?
Non,
ça va être.
Oui, non, ça va être plus espacé. Oui. Ouais. Bon, par moment, peut-être que ce sera un peu. Non, mais quand même, dans l'idée, ça va être un peu plus espacé.
Ouais. D'accord. Parce que là, c'est vrai que c'était.
Là, c'était un peu tous les deux jours depuis 15 jours. La dernière, c'était ce soir. À la librairie, la dernière, c'était ce soir. Il y en a une autre dont on va parler, David Marsac, qui se passera à la Fonderie, mais. Et ce soir, c'était formidable, par exemple. C'était Margot Charon et puis un musicien qui s'appelle Gilbert, et je ne sais pas son nom de famille, faute grave, qui, Margot, lisait les lettres de Sophie Scholl, une jeune femme qui a été assassinée par le régime nazi en Allemagne en 1943.
Ouais.
Parce que son frère avait créé un petit journal.
C'est des lycéens, c'est ça?
Ouais. Ouais. Des étudiants.
La Rose Blanche.
Voilà. La Rose Blanche. Voilà. Et donc cette jeune femme a écrit des lettres et donc voilà, et c'était très très bien.
Alors j'ai lu que vous aviez prévu d'organiser des librairies éphémères dans les communes du département où il n'y a plus de librairie justement. On imagine difficilement que c'est une démarche lucrative. Il y a comme une envie d'assurer une sorte de service public du livre derrière ces démarches.
Malheureusement, il va falloir que ce soit un peu lucratif quand même. Moi, je pense qu'aussi beaucoup de gens achètent sur Amazon parce qu'il n'y a pas de librairie là où ils sont. Mais par exemple, de penser que à La Flèche, il n'y a plus de librairie, c'est quand même hallucinant parce que La Flèche, ouais, c'est pas Robert ou le Coquet, quoi. C'est pas.
Ouais, il y a 15 000 habitants environ, je crois.
Ouais, voilà.
Oui, ouais.
Donc. C'est pas non plus aller prêcher la bonne parole. Hein. Moi, je suis pas du tout dans cette idée-là. C'est créer des liens. D'abord, on va pas débarquer comme ça sur la place du marché en disant bon, on va essayer de créer des liens, de se raccrocher peut-être à des choses qui existent. C'est de faire vivre le livre, c'est-à-dire bon, les gens peut-être ne viennent pas au Mans facilement parce que pour plein de raisons. Donc nous, on peut aller vers eux et c'est vivant aussi, quoi. C'est toujours dans la même idée que c'est vivant, quoi. Mais il faut quand même que ça rapporte de l'argent, il ne faut pas se voiler la face, quoi.
D'accord. Alors, t'en parlais hors antenne il y a un instant, du coup, on a prévu une petite question pour te faire réagir. en regardant dans tes rayonnages, on n'a pas vu de Dan Brown, pas de D.L. James, ni de Marc Lévy.
Pas de Marc Lévy, juste Musso.
Si, il y a un Musso dans la réserve.
Il y a un Musso dans la réserve.
Il est caché. Et du coup.
Il y a un Jean-Charles Lévy, il y a un Primo Lévy.
Est-ce qu'il y a un Bernard Henry?
C'est pareil.
Et du coup, t'as pas peur qu'il y ait une étiquette justement élitiste qui s'accole à la librairie?
Non, parce que j'ai jamais refusé de les commander. Parce que c'est un peu comme si tu me disais, il y a pas de BD, du coup, t'aimes pas les jeunes. J'aime pas les jeunes. Non, mais il n'y a pas de bande dessinée parce qu'il y a la librairie Bulle. Il n'y a pas de livre pour enfants parce qu'il y a Récré à Livre. Thuard, Doucet sont sur une plus grande surface où ils proposent les auteurs dont tu parles. Mm-hmm. Moi, je fais autrement. Voilà. Et je peux pas, j'ai pas la trésorerie pour avoir tout. Donc, je sélectionne et par contre, je commande tout ce que les gens veulent. N'importe. D'ailleurs, il y aura un site internet aussi. Mais je commande, si quelqu'un me demande, d'ailleurs un Musso, il y en a un dans la réserve, mais ça je raconterai pas pourquoi, mais c'est pour emmerder quelqu'un, mais il y en a un et voilà, ça va quoi, c'est pas non plus un drame, voilà, mais voilà, on a chacun ses spécificités, donc...
Oui, il y a aussi un phénomène de pas, c'est un, peut-être un gros mot, mais de niche, en fait.
Oui.
Voilà, tu proposes que ce qui est pas forcément proposé ailleurs, et
oui.
Voilà, enfin, c'est,
oui,
puis c'est l'offre aussi.
Voilà. Puis il y a aussi quand même,
c'est un choix.
Oui, il y a aussi quand même des choses dans les polars, mais c'est toujours moins connoté best-seller dans les polars que dans les, mais c'est bizarre, hein. Pourtant, c'est parce que Mankell, Nesbo,
un genre, donc un genre, c'est forcément,
voilà.
Dépréciatif, donc de toute façon, même un polar qui vend bien, enfin, un vrai polar, je parle pas de Dan Brown, là, pour le coup. Enfin, c'est mon avis personnel, il n'engage que moi. Un vrai polar, même qui vend bien, sera toujours moins considéré, de manière positive et d'un autre côté de manière bankable ou commerciale,
voilà.
Que oui,
voilà.
les auteurs qu'on a cités ou Adormesson chez Gallimard.
Exactement, quoi, voilà. Exactement. Mais parce que moi j'estime que si quand j'ai Mankell, j'ai d'une certaine façon un best-seller, quoi. Enfin, tu vois, voilà.
Elroy, Le Han, c'est pour moi des best-sellers aussi.
Voilà,
c'est pas
voilà.
Des choses
voilà.
Honteuses, quoi.
Voilà. Et même Kundera, hein, parce que je suis désolée, mais Kundera, on met une pile, on la vend. Non, mais c'est vrai, hein, donc. C'est pas de dire je veux pas de best-seller, enfin, je sais pas comment dire, quoi. C'est pas
comme ça, quoi.
Mais il y a d'autres choses. Alors, par contre, c'est vrai que ces auteurs-là sont plutôt rangés dans leur rayon, alors que les autres sont en vitrine et sur la table, parce que les autres ont besoin d'être remarqués. Alors que Mankell, il a pas besoin des livres. Enfin, il a pas besoin de moi. Hein. Il se débrouille tout seul, quoi.
Alors, on avait une question pour conclure l'interview. On va peut-être parler de la soirée du 24 mai avant, la rencontre lecture autour des Vincenet et Marie Stuart. Je te laisse présenter la soirée.
Là, donc, voilà, c'est David Marsac qui va en parler, l'éditeur des
Doigts de l'Homme. Les Vincenet et Marie Stuart, en fait, ça correspond, en fait, ça s'inscrit complètement dans l'idée de radicalité, je trouve, radicalité et affinité. C'est-à-dire qu'en fait, ce livre est né d'une passion que j'ai pour un texte traduit par André Markovitch, qui est donc cette série de cette séquence poétique de Vincenet et Marie Stuart, et que j'ai voulu présenter en quatre langues. Donc c'est carrément suicidaire, c'est des sonnets, c'est de la poésie, et en plus, ça ne se vend pas, sauf si le libraire les vend.
Oui.
Et c'est le cas chez Valérie. Ce n'est pas le cas dans les deux autres librairies concurrentes. Donc ça, c'est important de le dire, la poésie se vend si les libraires la vendent. Donc il n'y a pas d'ambiguïté. Et donc l'idée était de rassembler un texte que je trouve passionnant, que j'ai lu en traduction française, en quatre langues, en proposant le texte russe auquel je n'ai pas accès. La traduction anglaise revue par l'auteur, Brodsky, et deux traductions françaises. Et c'est la particularité de cet ouvrage, dans la mesure où le lecteur, finalement, qui n'aurait pas accès aux deux autres langues, a la possibilité, à la limite, de passer d'une traduction à l'autre, d'une française à celle d'André Markovitch, qui est celle que j'avais envie de mettre en valeur. Et d'autant plus que ce livre est un livre réversible. C'est-à-dire qu'il propose différents parcours de lecture pour ajouter donc la témérité, enfin le suicide à la témérité, si on peut dire. C'est-à-dire que le lecteur ne sait pas, même pas dans quel sens prendre ce livre. Donc globalement, l'idée, c'est qu'au fond, il n'arrête pas de tourner et qu'il lise et qu'il y entre. Et donc je pense que la radicalité dont Valérie parlait, c'est ça. C'est qu'à un moment, l'élitisme, il faut qu'il soit pour tous. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de raison que Brodsky, qui est méconnu d'ailleurs même de la critique française qui n'en a pas parlé, ne soit pas accessible à tout le monde. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que Gallimard, pendant 20 ans, n'a rien fait. Et c'est un petit éditeur, donc du Mans, les doigts dans la prose, moi-même, en personne, qui donc décide un jour, par passion et aussi par rencontre, d'obtenir les droits donc de ces sonnets auprès de Gallimard, auprès
c'était
de l'endroit de Brodsky,
voilà. Gallimard,
C'était quelque chose comme ça. Et donc l'idée, donc Markovitch sera là donc le 24. C'est un orateur, hein, donc c'est quelqu'un qui va s'emparer de la salle, du texte. Donc je pense que c'est aussi pour ça que ça a sa raison d'être. Il va pas lire les sonnets, hein, il va plutôt expliquer la démarche, sa conception de la traduction. Et puis, en même temps, interréagir avec le public. C'est ça l'idée. C'est, au fond, rendre accessible quelque chose qui, en apparence, quand on voit cet objet, a l'air complètement... délirant, quoi. On l'ouvre ici, il est en russe d'un côté, en anglais de l'autre. Vous voyez, la couverture, l'une des couvertures est en anglais, avec sous-titres en russe. Mais l'idée, c'est véritablement à la fois d'intriguer, à la fois aussi une forme de pied de nez à la culture, mais par une hyperculture, d'une certaine façon.
Oui, parce que c'est vrai que ça intrigue d'entrée de jeu, là. Mais pourquoi
Mais qu'est-ce qui se passe ici? Bon, sans parler des couleurs survitaminées des autres livres, du fait qu'il n'y a pas de quatrième de couverture, sauf pour celui-ci, on a un petit, parce qu'on quand même, on n'était pas trop suicidaire, on avait envie quand même de le vendre un peu, donc il fallait donner quelques petites explications. Voilà, expliquer un peu de quoi il s'agissait. Mais sinon, globalement, notre idée, c'est que là, on entre dans un livre comme, comme dans un moulin ou comme, pas d'autres métaphores, en tout cas en sauvage et en barbare. Hein, je pense qu'il faut ouvrir et entrer et voir.
Et donc,
avec le droit de reposer, hein, mais au moins aller voir.
Quatre traductions en russe, en anglais, enfin quatre langues en russe, en anglais et deux traductions françaises. C'est
deux traductions françaises
qui sont disparates dans le temps en fait ou
Alors qui ont été publiées en même temps.
D'accord.
Simplement Gallimard en a repris une. Et celle de Markovitch est apparue dans une superbe revue qui a disparu quelques années après, qui s'appelait La Lettre Internationale, et donc le texte n'était plus disponible. Donc, d'une certaine façon, d'accord, il était voué à ne plus être accessible.
C'est marrant parce que c'est aussi un truc de temporalité, c'est-à-dire que c'est la langue première de Markovitch,
c'est le russe.
C'est le russe, donc ensuite traduction anglais, ensuite français, c'est comme ça que ça se passe.
Alors, la traduction la traduction anglaise a été assurée par quelqu'un d'autre, par Peter France, qui est un spécialiste de littérature du XVIIe siècle et qui en même temps a appris le russe par passion et est devenu un traducteur dans le monde anglophone. Okay. Reconnu, hein, voilà. Et donc l'idée, c'était de rassembler un peu. Il y a aussi l'idée, on parle de l'Europe, mais parlons-en aussi de l'Europe culturelle d'une certaine façon. Hein, c'est rassembler finalement des langues de l'Europe. Alors il n'y a pas toutes les langues, mais en même temps un texte qui parle aussi de cette Europe à travers sa culture. Hein, le texte des 20 sonnets, c'est un peu ça, puisque le point de départ, c'est un voyage de Brodsky à Paris, un petit peu après son expulsion d'Urs en 72, où il se retrouve au Paris, donc jardin du Luxembourg, en extase devant la statue de Marie Stuart. Et là, il se dit, et cette statue lui rappelle une femme qu'il a aimée, une actrice aussi qu'il a aimée quand il était enfant. Et là, d'une certaine façon, lui viennent ces 20 sonnets qu'il retravaille sur l'amour, la séparation, l'exil. Parce que, se retrouver avec une statue dans un jardin dont il tombe amoureux d'une certaine façon par procuration, ça n'a rien d'une possibilité et d'une vraisemblable, enfin de quelque chose de vraisemblable. Donc, d'une certaine façon, ce texte parle de tout ça, de l'Europe, donc du XVIe siècle au XXe. À travers sa culture, à travers son histoire, à travers ses bouleversements aussi, ceux du XXe siècle surtout, qui sont évidemment ceux de Brodsky. Et c'est un texte qui mêle deux registres. C'est ça qui est très très important dans ce texte, à la fois le haut et le bas. C'est-à-dire la gaudriole, il y a des jeux de mots obscènes là-dedans, et en même temps, une espèce de langue hyper élégiaque, hyper d'une certaine façon élevée. Quoi. Et je trouve que c'est la vocation de nos éditions, mêler le haut et le bas.
D'accord.
Donc à la fois une forme de sacré et en même temps de ne pas oublier qu'on a les pieds sur terre et qu'on est dans une forme de profane et qu'on a le droit même de profaner d'une certaine façon, de désacraliser. C'est ça l'idée de... D'où ces couleurs un peu... et puis ces titres, hein, Dasho Arba Mafra, hein, c'est un texte extraordinaire qui n'a pas eu beaucoup de lecteurs, d'un auteur qui ensuite a publié chez Flammarion. Hein, un premier roman de plage... mais qui on a eu le plaisir en tout cas de faire valoir un texte exigeant et en même temps très ludique d'une certaine façon.
Et justement, peut-être parlez-nous un petit peu de la maison d'édition, les doigts dans la prise, histoire de...
Dans la prose.
L'erreur est tout à fait normale puisqu'au fond il y a une...
Oui, non, mais en plus, voyant le...
Il représente le haut et représenté par une prise. Donc, le logo a été justement fait par l'agence Attribu, Anne Millet, que ça a été un moment de génie, parce qu'on, justement, on cherchait les doigts dans la... Moi, je voulais les doigts dans la prise, et il se trouve que le titre était pris par une diffuseur de musique, je crois.
Mais c'est bien possible.
Et donc, du coup, mais comment on va faire? Parce que moi, la prise, j'y tiens, j'ai l'idée du court-circuit, l'idée de quelque chose qui fait zip, qui fait sauter les plombs. C'était ça, la maison d'édition. Et donc, l'idée, c'était de graphiquement, de réintroduire la prise dans le haut de la prose. Et là, ça a été un moment... qui ne m'appartient pas, donc c'est Anne Millet qui l'a fait. Et donc là, cette maison d'édition, au fond, c'est voilà, c'est à l'origine, c'était faire publier des auteurs qui n'avaient pas de livre, qui avaient publié en revue, mais qui n'avaient pas de premier livre. C'était ça. Puis progressivement, je me suis rendu compte que ça pouvait être vraiment suicidaire, parce que globalement, publier un premier livre et ensuite les laisser partir, c'était pas forcément une bonne idée.
Et ça, c'était la stratégie du MUC 72 pendant des années avec les gens. Je suis pas sûr que ce soit de très bonne loi.
Donc un ami qui est peut-être joueur de football, je ne sais pas, en tout cas, m'a dit, voilà, il serait peut-être bon aussi d'ouvrir. Donc du coup, on a commencé à ouvrir à des auteurs autres qui avaient déjà publié. On va suivre aussi ceux qu'on a déjà publiés. Et puis, des petites incursions comme ça par la radio. Radicalité, puis par affinité tout simplement, parce que moi voilà, au fond l'unité de la maison d'édition, c'est d'une certaine façon le comité de lecture. Alors ça le passe d'abord par moi, et ensuite il y a deux personnes qui lisent, et puis on se met d'accord, on discute, on voit. C'est d'une certaine façon transgenre, hein, c'est-à-dire qu'il s'agit pas de sortir des catégories roman, poésie, etc. Au fond, ça c'est un roman, mais ça pourrait être de la poésie. D'une certaine façon, le Brodsky raconte une histoire. On a ici de la poésie graphique avec une mise en page, une mise en scène qui est à la fois élégiaque et en même temps parodique, c'est-à-dire que ça part dans tous les sens, avec des jeux qui sont excessifs, des jeux graphiques qui sont excessifs. Donc c'était ça l'idée de cette maison d'édition. Faire exister donc une littérature autre qui soit à la fois insolente, à la fois exigeante, même si évidemment chacun a sa notion de l'exigence, et puis voilà, il y a toujours une part de subjectivité, mais que j'assume complètement. Hein, voilà. Oui,
et ben du coup, on peut rappeler le nom de la maison d'édition qui est les Doigts dans la Prose, et donc qu'on pourra retrouver le samedi 24 mai prochain, donc à la Fonderie à partir de 18h, c'est ça?
Oui, je crois que c'est 18h.
C'est ce qui est écrit sur la plaquette.
18h. Bon, bah alors c'est ça. Tu sais, j'ai plus entre 18 et 19.
Donc samedi 24 mai, une rencontre lecture autour des Vincent et Marie Stuart. Vous avez quelque chose à rajouter?
Oh, bah non, moi perso.
À part remercier nos invités.
Et ben voilà.
Merci à vous.
Très chaleureusement.
Merci à vous. Merci beaucoup.
Et puis de notre côté, on va enchaîner avec la suite de l'émission.
Et un excellent morceau d'un excellent groupe.
Ouais, donc on va écouter un petit peu de Melt Banana.
Ça n'a rien à voir.
Ouais. Extrait du dernier album qui est sorti récemment, avec le morceau Vertigo Game dans Panopticon sur Radio Alpa.